Le journal présenté par Lise Verbeek.
Bonsoir. De nouvelles accusations mettent en cause l'un des policiers mis en examen dans l'affaire Théo. Un ami du jeune homme affirme avoir été tabassé par l'agent une semaine avant l'interpellation de Théo. L'IGPN est saisi, le parquet de Bobigny ouvre une enquête préliminaire. Les précisions de Florence Sturm. François Fillon, candidat, envers et contre tout. Si mise en examen il y a, elle serait illégitime selon lui. Il a donc laissé entendre devant les parlementaires de son parti aujourd'hui qu'il continuerait la campagne. Nouveau revers pour Donald Trump après celui en justice sur son décret anti-immigration. Cette fois, il perd son monsieur sécurité. Michael Flynn a été contraint de démissionner, mis en cause pour ses contacts avec l'ambassadeur russe. Que signifie cette démission pour le président américain? On le verra avec Frédéric Carbone et notre invité, l'historien François Durper. Depuis 12 jours, depuis l'affaire Théo, il y a eu 245 interpellations après les violences urbaines en Seine-Saint-Denis, selon le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement qui tente l'apaisement avec aujourd'hui deux visites express. François Hollande était à Aubervilliers ce matin pour une table ronde sur l'insertion professionnelle des jeunes. Il y a indiqué vouloir que justice se passe. Et son ministre de l'Intérieur est élu à Sarcelles. Il veut rapprocher police et population. Bruno Leroux qui a saisi l'IGPN, la police des polices, après de nouvelles accusations contre l'un des policiers mis en examen dans l'affaire Théo. Il se base sur un témoignage d'un ami de celui-ci qui accuse l'agent de l'avoir roué de coups quelques jours avant le 2 février, Florence Sturm.
Oui, il l'a fait après un témoignage publié dans l'Obs, ce témoignage de Mohamed, un ami de Théo, 22 ans comme lui, et qui raconte avoir été passé à tabac le 26 janvier dernier dans la même commune, d'Aulnay-sous-Bois. Mohamed raconte être intervenu au moment de l'interpellation d'un petit de la cité, en demandant simplement une explication avant de poursuivre sa route pour aller acheter du pain. Il explique que deux policiers l'ont intercepté à son tour pour le fouiller, un troisième les rejoint, Mohamed est formel. On le connaît dans le quartier, c'est celui qui a pénétré Théo avec sa matraque. Tout le monde l'appelle Barberousse. Le jeune homme accuse le policier de l'avoir frappé avec sa matraque, plaqué au sol, de lui avoir, lui et ses collègues, porté des coups très violents en proférant des injures racistes. La scène qu'il décrit aura duré plus d'une demi-heure avant que les fonctionnaires ne le conduisent au poste. Il va rester 24 heures au commissariat avec un passage dans un service médico-judiciaire où un médecin lui prescrit 5 jours d'interruption temporaire de travail. Des photos le montrent. Un visage tuméfié et des paupières gonflées. Les policiers ont déposé plainte à la suite de cette interpellation pour outrage et rébellion, ce qui est au demeurant assez courant. Mohamed, lui, n'avait pas porté plainte, expliquant qu'il craignait pour son emploi, mais il est décidé à le faire aujourd'hui, défendu par le même avocat que Théo, le très médiatique Éric Dupond-Moretti. L'IGPN, elle, va entendre également la version des policiers dans un contexte très marqué par l'affaire Théo. La police des polices avait, je vous le rappelle, privilégié la thèse de l'accident sur celle du viol, qualification finalement retenue par la juge d'instruction pour la mise en examen du policier.
Et une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Bobigny en plus de celle de l'IGPN. Voilà une nouvelle révélation qui pèsera peut-être encore un peu plus sur la campagne de François Fillon. Le Canard enchaîné dans son édition de demain affirme que Thierry Soler, le porte-parole du candidat de la droite, n'a pas payé une partie de ses impôts sur le revenu entre 2010 et 2013. Son entourage indique qu'il portera plainte pour diffamation contre l'hebdomadaire. Le parquet de Nanterre a confirmé, sans donner plus de détails, qu'une enquête préliminaire visant Thierry Soler était en cours depuis début septembre suite à une plainte pour fraude fiscale de Bercy. François Fillon, lui, de son côté, continue d'attaquer le parquet national financier, chargé d'enquêter sur les soupçons d'emploi fictif de sa femme. Devant ses parlementaires aujourd'hui, le candidat de la droite a redit qu'il irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, Stéphane Robert.
Alors la question lui a été posée ce matin lors de la réunion du groupe parlementaire à l'Assemblée. Si tu es mis en examen, François, qu'est-ce qu'on fait ? Et il a laissé entendre, affirment plusieurs députés, il a laissé entendre qu'il pourrait finalement maintenir sa candidature car il conteste la légitimité du parquet financier de poursuivre dans cette affaire pour détournement de fonds publics. Dès lors, si jamais il y a poursuite, l'argument est tout trouvé. Instance illégitime, mise en examen illégitime, il peut rester candidat. Ça, évidemment, ce serait mal perçu et mal compris par une majorité de Français. Mais ce n'est plus ça l'important pour François Fillon. L'important, c'est de convaincre tout le monde qu'il maintiendra sa candidature quoi qu'il arrive et c'est de ressouder son camp autour d'un socle d'électeurs de droite qui voteront pour lui, quoi qu'il arrive, même si c'est sans enthousiasme, parce qu'ils ne veulent ni de la gauche, ni de l'extrême droite. Et pour commencer, il a dû calmer une nouvelle fronde de parlementaires ce matin qui faisait valoir leur impossibilité de faire campagne sur le terrain et qui voulait relancer l'idée du plan B. Je suis le seul candidat légitime, a redit François Fillon, et mon retrait provoquerait une crise majeure. Et du coup, son entourage, à l'image du député de l'Inde, Damien Abad, en appelle à l'unité.
On peut comprendre les interrogations, mais les interrogations, on se les dit entre nous, en famille, il y a un débat, c'est normal, le débat d'idées doit être respecté. Je dis simplement qu'il faut arrêter simplement d'en appeler à des instances qui ne sont pas compétentes, comme le bureau politique, comme le Conseil national. Je dis aussi d'arrêter d'en appeler au plan B, dont tout le monde sait qu'il n'y en a pas, ni dans les tiroirs, ni sous le paillasson. Et donc aujourd'hui, on doit toutes et tous regarder de l'avant. C'est difficile, ne rendons pas encore la tâche un peu plus difficile que ça n'est aujourd'hui.
Il n'y aurait donc pas d'autre solution que de soutenir François Fillon. Ça, c'est le discours officiel. Mais ça n'est pas le discours que tiennent sous cap de nombreux élus. Beaucoup se demandent jusqu'à quand ça va tenir et craignent que l'obstination de François Fillon transforme une présidentielle imperdable en une gifle électorale.
PSA lorgne sur Opel et Vauxhall. Le groupe a confirmé explorer une potentielle acquisition de la filiale européenne de l'américain General Motors. PSA et Opel sont actuellement liés par 3 projets communs de véhicules. L'intérêt pour PSA serait d'atteindre une taille critique de production. Il passerait de 3 millions à 4 millions de véhicules par an et baisserait ainsi ses coûts de production. Les syndicats, eux, craignent un effet doublon et une interférence avec les usines françaises. Donald Trump perd l'un de ses plus grands soutiens. Son conseiller principal à la sécurité nationale, Michael Flynn, a démissionné. Le Washington Post a révélé que Flynn avait eu plusieurs conversations téléphoniques avec l'ambassadeur russe aux États-Unis. Conversation le jour où Barack Obama avait ordonné de nouvelles sanctions contre Moscou après ses ingérences présumées dans la campagne américaine. Contact illégaux car Donald Trump n'avait pas encore été investi. Flynn parti, le président américain va donc devoir lui trouver un successeur, Frédéric Carbone.
Le ménage a commencé à la Maison-Blanche, mais pour Donald Trump, la priorité, c'est d'arrêter les fuites. Sur son compte Twitter, le président américain explique en effet que la vraie question, ce sont ces révélations alimentées par ce milieu de Washington, sous-entendu par des gens qui veulent l'empêcher d'agir. Donald Trump contre le reste du monde, rhétorique de campagne, posture favorite d'une partie de son entourage. Le problème, c'est que l'affaire Flynn témoigne des luttes de clans au sein de la Maison-Blanche, une sorte de canal historique autour de Steve Bannon et d'un canal habituel autour des professionnels du Parti républicain, comme le vice-président Mike Pence. Michael Flynn était un franc-tireur, sans doute assez isolé, et c'est pour cela que Donald Trump a été obligé de le lâcher. Mais ces dernières 24 heures, la conseillère la plus proche du président est également fragilisée. Kellyanne Conway a d'abord affirmé que Michael Flynn conservait toute sa confiance avant d'être incapable d'expliquer pourquoi la démission intervient aussi tard alors que la Maison-Blanche est informée depuis la fin janvier du contenu de ces conversations. Le départ de Michael Flynn, c'est enfin aussi la revanche des espions, des agences de renseignement qui se sentent maltraitées par l'administration Trump et peut-être le président américain a-t-il toutes les raisons de souhaiter que le robinet ne coule plus et que le contenu des écoutes ne termine plus dans les journaux.
Frédéric Carbone à Washington pour France Culture. Bonsoir François Durper.
Bonsoir.
Alors vous êtes historien et spécialiste des États-Unis. Le président américain perd son monsieur sécurité. Est-ce que c'est un revers pour Donald Trump ?
C'est très clairement le premier revers de Donald Trump. Parce qu'il faut bien se dire que Michael Flynn, certains l'appelaient le troisième homme le plus puissant du monde. C'est l'entourage très très proche de Donald Trump. Il y avait Donald Trump, il y a le chef de la stratégie Bannon, Steve Bannon, et puis il y a le chef de la sécurité nationale. Et les premières photos qu'on a vues, on les a vues tous les trois travailler dans le bureau ovale, c'est vraiment le cercle très très restreint. Et si Donald Trump avait pu se passer d'accepter cette démission, eh bien très clairement, il l'aurait fait.
Donc c'est le FBI qui a écouté les conversations de Flynn avec l'ambassadeur russe. Est-ce une revanche du FBI alors qu'on sait que les relations avec Trump sont très compliquées depuis son arrivée au pouvoir ?
C'est une revanche plus largement des services de renseignement. Alors, contre d'abord Donald Trump. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a commis une double faute lorsqu'il a été élu. La première faute, c'est d'attaquer les services de renseignement alors qu'il n'était pas encore investi. Ça, c'est une faute, on va dire, sur la forme. On n'attaque pas ni le président Obama, il l'avait déjà attaqué, ni les services de renseignement avant d'être investi. Et puis, la deuxième chose, c'est vraiment sur le fond. Donald Trump s'en est pris aux services de renseignement et en particulier à l'enquête menée, débouchant sur une idée force, la Russie a interféré dans l'élection américaine. Alors là, il y a un problème de double légitimité. Du côté de Donald Trump, il jouait sa légitimité de président élu de manière totalement normale par le peuple américain. Et puis du côté des agents de renseignement, bien, on a pris très très mal la critique sur le travail, sur le fond du travail et de l'enquête de ces quatre services de renseignement qui d'habitude sont souvent en concurrence, mais qui là étaient d'accord sur la même idée.
Et est-ce que cette démission de Flynn ne va pas envenimer encore plus les relations de Trump avec ses agences de renseignement ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la démission de Flynn, c'est évidemment une sorte de fusible pour Donald Trump. C'est d'ailleurs assez surprenant. On aurait pu penser que Donald Trump cherche à tout prix à conserver Michael Flynn. C'est peut-être le premier geste de conciliation de Donald Trump. C'est peut-être le premier geste qui montre que Donald Trump comprend qu'il y a des règles qui s'imposent à lui. Et dans son combat contre les institutions américaines, parce qu'on en est là, c'est d'un côté Donald Trump, de l'autre côté l'institution du renseignement, eh bien, il y a très clairement la défaite de Donald Trump. Mais attention, cette guerre peut continuer longtemps et elle n'est pas forcément en faveur des agents de renseignement. C'est une bataille gagnée, pas forcément la guerre. Pour quelle raison ? Et d'abord parce que ces agents de renseignement sont multiples, il y en a quatre, le FBI, la CIA, la DIA et la NSA, et il faut avoir l'oreille du président. Elles sont souvent en concurrence et elles cherchent à avoir l'oreille du président. On peut penser que le président cherchera à diviser pour régner. Et puis la deuxième chose, c'est que ces agences de renseignement, elles ne sont pas conçues, elles n'ont pas été créées pour considérer le président des États-Unis comme étant le problème, évidemment. Donc on peut estimer que Donald Trump a quand même des atouts dans sa manche, dans cette rivalité avec les agences de renseignement.
Oui, Donald Trump ne peut pas faire sans ses agences et vice-versa. Est-ce que la démission de Flynn ne va pas également alimenter un peu plus les suspicions sur le poids de la Russie dans les décisions prises à Washington ?
Disons que Michael Flynn était l'homme qui voulait le rapprochement le plus immédiat avec la Russie. On se souvient qu'en 2015, lors du dîner de gala de la télévision russe, il était à la même table que Donald Trump. C'est celui que Vladimir Poutine. C'est celui véritablement qui souhaitait ce rapprochement le plus fort. On peut penser aussi que la démission de Michael Flynn apaisera peut-être la tension entre les agences de renseignement et Donald Trump. Un exemple vraiment très récent, lors de la dernière rencontre entre James Clapper, le chef, le directeur du renseignement national, et Donald Trump, il y avait Michael Flynn, qui, comme chef de la DIA, avait été viré par ce même James Clapper. Donc il y avait évidemment une tension avec Donald Trump, mais il y avait aussi une tension personnelle contre Michael Flynn, qui a passé 2 ans à la DIA et qui n'a pas laissé que des bons souvenirs.
Merci François Durper d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste des États-Unis. Le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait été assassiné ce matin en Malaisie. C'est ce qu'affirme l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Kim Jong-nam était le fils aîné de Kim Jong-il. Il était en froid avec son demi-frère car il a tenté d'entrer au Japon avec un faux passeport pour visiter Disneyland. Il a aussi critiqué ouvertement le régime nord-coréen et était proche du pouvoir chinois qui le protégeait. S'il est confirmé, son assassinat serait le signe que Kim Jong-un continue de se débarrasser des membres de sa famille qu'il juge dangereux pour son pouvoir. Une manifestation qui rappelle celle en France il y a quelques mois. Les tracteurs entrent dans Athènes. Les agriculteurs grecs manifestent en masse contre l'austérité dans un mouvement lancé il y a 3 semaines. Reportage à Athènes d'Angélique Kourounis.
Petros est agriculteur depuis 3 générations. Il pense que son fils ne prendra pas sa relève. Il est venu de Crète manifester ce matin.
La pauvreté frappe à nos portes. Cette politique appliquée par les gros industriels, le grand capital nous a épuisés. Nous ne pouvons plus produire. Les coûts de production sont énormes. Les taxes immobilières, les assurances, les nouveaux impôts nous étouffent. On a peur de perdre notre terre. Et à la fin arriveront les gros de l'agroalimentaire pour nous prendre nos champs. C'est pour ça que nous sommes tous venus à Athènes manifester.
Ils sont sont plus de 50 000 à avoir signé une pétition pour le recours devant le Conseil d'État contre les nouvelles lois sur les assurances sociales mises en place par le gouvernement et ils espèrent bien être 100 000 d'ici le dépôt du texte devant la haute juridiction. La nouvelle loi prévoit des augmentations très importantes des cotisations ainsi que la suppression d'avantages fiscaux, une situation que les agriculteurs dénoncent comme une mise à mort de leur situation déjà très précaire selon eux. D'autres manifestations sont prévues dans tout le pays et demain, une délégation d'agriculteurs sera reçue par le ministre de l'Économie.
Le temps, l'Aude et l'Hérault sont toujours placés en vigilance orange inondation. Demain matin, il y aura un grand soleil dans l'Est, en Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine, de la pluie sur le Cotentin, en Ille-et-Vilaine et dans les Pyrénées-Orientales. Sur le reste du pays, des nuages et des éclaircies. Les températures seront entre 4 et 10 degrés sur la moitié nord, entre 8 et 14 degrés sur la moitié sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Nathalie Lopez.